Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons le négociant Armand Ezerzer. Bonjour Armand Ezerzer.
Bonjour.
Armand Ezerzer, après des débuts chez les grands noms du négoce des matières premières agricoles comme Sugden, vous avez décidé de créer votre propre entreprise qui s'appelle donc Mambo Commodities. Mambo, cela veut dire quoi ?
C'est l'abréviation de deux villes ivoiriennes, la ville de Mankono et la ville de Boaké, qui déterminent une qualité de coton africaine.
Et vous êtes donc un peu ivoirien ?
Je crois que je suis un peu de partout, puisqu'on ne peut pas se qualifier juste par rapport à une qualité de coton.
Vous avez choisi le négoce du coton, et du coton africain en particulier, pourquoi ?
Pour deux raisons fondamentales. À l'époque où j'ai commencé dans le coton, comme vous l'avez
c'était
dit,
il y a combien
c'était en 1994. Et donc à cette époque-là, le monde du coton était encore, par rapport à certaines autres matières premières, très en retard, on va dire, sur les nouvelles techniques. Et d'un autre côté...
Nouvelles techniques ?
Sur les techniques financières qui se mettaient en place à l'époque de façon très agressive. Et aujourd'hui, après ça, la deuxième chose, c'est que je n'avais pas de capitaux. Et le seul pays qui a accepté de me faire confiance, la seule zone qui a accepté de me faire confiance, a été l'Afrique de l'Ouest.
C'est-à-dire de vous remettre du coton ?
C'est-à-dire de me donner des contrats de coton, à charge pour moi de les placer à un bon prix et de payer mes engagements.
Alors au cours de cette émission, nous parlerons bien sûr de votre parcours professionnel, dont nous venons de dire quelques mots, du marché du coton, de ce qu'il nous dit de la globalisation et de l'état de l'économie africaine. Armand Ezerzer, le négociant que vous êtes, achète du coton aux Africains pour le revendre plus cher aux filateurs asiatiques, en résumé. Mais pourquoi est-ce que les Africains ne le font pas eux-mêmes ? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vous ?
Alors on va juste remettre...
Est-ce qu'ils ont besoin de vous ?
Alors on va juste remettre l'église au milieu du village. La première chose, c'est qu'on ne peut pas acheter et revendre plus cher. Ça paraît extrêmement simple, mais malheureusement, ce n'est pas une réalité. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Si vous voulez résumer le métier de négociant, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à acheter du coton parce que les prix sont hauts et que ça favorise certains producteurs ? Est-ce que vous êtes prêt à l'acheter pour 2020 ? La question est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ce que cherche le négociant, c'est un laps de temps le plus long possible entre son achat et sa livraison.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez du coton qui n'est pas encore planté ?
Qui n'est pas planté et qui sera planté que dans deux ans.
Ni même imaginé, probablement ?
Tout à fait.
Et qui sera planté dans deux ans et vendu dans trois ?
Peut-être.
Et comment ça marche ? Comment on peut gagner sa vie comme ça ?
Tout est un jeu d'anticipation. Tout est un travail assez fastidieux et assez complexe sur les marchés financiers, que ce soit les marchés financiers de devises ou les marchés financiers de matières premières, principalement sur New York. Avec une problématique, l'imperfection du marché de New York pour les couvertures.
Mais comment est-ce que vous avez dit en réponse à ma première question que vous ne vendiez pas plus cher que ce que vous achetiez ? Mais c'est quand même le béaba du commerce.
Alors, c'est le béaba du commerce, mais je pense qu'il faut prendre la problématique sensiblement différemment. On peut voir j'achète pour revendre, comme va le faire un épicier, un vendeur de voitures ou autre. Et on peut voir le marché des matières premières comme une globalité sur laquelle il va y avoir des intervenants qui vont donner de la liquidité au marché. Et cette liquidité, elle est nécessaire pour tout le monde. Elle va être nécessaire pour les producteurs de fil, en l'occurrence nos acheteurs, et elle va être nécessaire pour les producteurs de coton. Vous pensez bien que lorsqu'on traite avec des producteurs brésiliens qui cultivent plus de 700 000 hectares de terre, qu'est-ce qu'un négociant...
Chacun,
oui. Qu'est-ce qu'un négociant peut lui apporter si ce n'est une liquidité ? Tout le monde peut faire du négoce. Après, il suffit d'un téléphone et d'un ordinateur. Après ça, il faut d'abord la confiance des banques, la confiance des contreparties, et accepter de prendre un risque qu'on essaye de juguler au fur et à mesure de la vie du contrat.
C'est ça que vous appelez liquidité ?
La liquidité, non, c'est de permettre à des producteurs, lorsque les cours sont bons, de pouvoir placer leur récolte et ainsi de pouvoir graver dans le marbre leurs résultats positifs ou sécuriser leur production. Donc aujourd'hui, par exemple, en Afrique, les cours sont très bons. Les cours sont historiquement bons puisqu'il y a une conjonction de marché à terme haut et une conjonction de qualité d'abord de coton africain excellente. Et là-dessus, vous avez un marché mondial qui permet, avec les devises, d'avoir des cours très bons et largement au-dessus du prix de revient.
Mais justement, si les cours sont excellents aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de changer la donne en Afrique ? Est-ce qu'il est normal de voir encore 97% du coton exporté brut ? Est-ce qu'il n'est pas temps pour les pays africains d'industrialiser cette filière ?
Mais je crois qu'il est plus que temps. Je veux dire, aujourd'hui, la culture du coton ne peut être envisagée, selon moi, en Afrique qu'à partir du moment où il va y avoir une transformation locale. Et sans transformation locale, dès qu'il va y avoir un soubresaut, c'est-à-dire, c'est quasiment inéluctable aujourd'hui, soit des cours du dollar moins favorables, soit des cours de bourse moins favorables, on va repasser sur une économie qui va être flagellante. Donc on vient d'années qui ont été très difficiles dans le monde du coton, et notamment dans le monde du coton en Afrique de l'Ouest, et peut-être que la pérennité de cette agriculture, qui quand même fixe des millions de personnes en Afrique, cette pérennité, elle doit passer par une industrialisation. L'industrialisation, c'est pour moi une intégration. L'intégration, ça veut dire que non seulement on va produire du coton, on va égrainer ce coton sur place, on va filer ce coton, on va le tisser, on va le teindre et on va faire des vêtements.
Mais pourtant, vous dites qu'en Afrique, il est souvent plus facile, ou il est plus facile d'être un exportateur qu'un industriel.
Ah oui, être un industriel aujourd'hui en Afrique, c'est une gageure.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a très peu, le contexte des affaires en Afrique est difficile. Il n'est absolument pas impossible, puisque nous-mêmes, nous avons créé un certain nombre d'industries en Afrique, et nous avons investi beaucoup de notre argent en Afrique. Mais il faut d'abord savoir que beaucoup de banques refusent ces investissements. Donc souvent, ces investissements se font sur fonds propres, c'est notre cas. Donc quand vous avez des fonds propres qui sont limités, votre activité va être limitée. La deuxième chose, c'est que vous avez une insécurité juridique permanente en Afrique, alors que tout est fait pour que cette insécurité disparaisse.
Et mais je ne comprends pas ce que vous dites là. Insécurité juridique alors que tout est fait pour qu'elle disparaisse.
Ça veut dire qu'il y a...
C'est contradictoire ?
C'est pas tout à fait contradictoire. En ce sens que vous avez un corpus législatif qui pourrait être très opérant en Afrique. Vous avez un système OADA qui est un système très protecteur.
OADA,
c'est l'organisation
du droit des affaires.
Du droit des affaires en Afrique de l'Ouest. Et vous avez également des juristes de grande qualité, voire de très grande qualité en Afrique. Mais après, je pense que le vrai seul problème qu'il y a pour cette sécurité juridique des affaires, c'est l'isolement des juges de niveau inférieur, qui crée cette instabilité. Alors que moi, je plaide depuis de nombreuses années pour qu'il y ait enfin des recueils de jurisprudence, qui est que la notion de jurisprudence rentre dans le droit africain, que cette notion
les décisions juridiques sont trop incertaines, c'est ça ?
Les décisions juridiques sont souvent de bonne qualité, mais par trop incertaines, surtout sur les niveaux inférieurs, c'est-à-dire sur les niveaux de première instance.
Mais est-ce que c'est pas le cas aussi en Europe ? Selon que vous serez jugé à Paris ou à Marseille, vous n'aurez pas la même réponse du magistrat ?
Alors, on n'aura peut-être pas dans les faits la même réponse, mais en droit, vous aurez la même réponse. Parce que vous avez une jurisprudence qui intervient. Et cette jurisprudence s'impose. Et si par égarement un juge ne la suivait pas, le juge du second degré ou le juge de cassation viendrait et trancherait. Or, en Afrique, c'est beaucoup plus flou. Et le fait qu'il n'y ait pas de recueil jurisprudentiel, que les décisions de la Cour commune de justice à Abidjan, notamment il y a un an, ont posé un certain nombre de problèmes, remettre en cause ça. Alors qu'en fait, le corpus législatif existe. Et c'est dommage parce que nous-mêmes, je peux vous raconter une anecdote qui est assez croustillante, nous-mêmes, 10 ans après avoir racheté dans un tribunal les actifs d'une société, 10 ans après, nous sommes poursuivis par un actionnaire minoritaire de cette société et... Depuis un an, on nous a dit « vous devez quitter les lieux de votre entreprise après avoir investi plusieurs millions d'euros, vous devez partir ». Et donc on est dans une bataille juridique absolument sans fin. Et de cette bataille juridique, lorsque j'ai interpellé l'ambassade de France, on m'a dit « mais vous êtes fou ». Pourquoi vous venez investir ici ? Le sport national, c'est de faire ça. Alors nous, on y croit. Contre vents et marées, on y croit. On continue d'investir, on continue de créer des structures en Afrique et on se bat sur un choix juridique.
Vous nous dites qu'il y a une ambassade de France dans les régions où vous intervenez en Afrique de l'Ouest qui dissuade les investisseurs français de s'implanter localement.
Elle ne les dissuade pas a priori, puisque là c'était a posteriori. On me dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ? Est-ce que c'est bien raisonnable que de venir investir ? Alors que moi, je pense que c'est plus que raisonnable et c'est vers ça qu'il faut tendre.
Alors, est-ce qu'on peut dire, à travers tout ce que vous nous dites, que la filière coton est une filière encore d'avenir en Afrique ?
Ah, moi, je crois. Je crois pertinemment que la filière coton est une filière d'avenir. D'abord, parce que le coton africain est un coton d'excellence, un coton qui est appelé à un grand avenir en termes techniques et qu'on peut comparer vraiment à tous les cotons les plus prisés au monde. Ensuite, moi, je ne crois pas à une Afrique figée. Je ne crois pas à une Afrique qui va se cantonner à rester dans une espèce de carcan. Je pense qu'à un moment, il va y avoir un certain nombre d'initiatives qui vont permettre à ce carcan de s'ouvrir. Parce que économiquement, l'installation, une intégration de la filière textile en Afrique est tout à fait possible. Le seul écueil auquel on soit confronté aujourd'hui, c'est le coût énergétique.
En Afrique, la filière coton, c'est avant tout souvent des structures publiques au départ, une gestion publique, et on la met souvent en cause. Est-ce qu'on a raison de la mettre en cause ?
Non. Non, parce que il faut quand même se rappeler que les terres, le coton pousse sur des surfaces très petites. Donc, en règle générale, c'est 1,5 hectare. Donc, ces filières publiques peuvent mettre les moyens pour encadrer, pour préfinancer les semences, les intrants, les phytosanitaires, et permettre un encadrement agricole et permettre un transfert de savoir-faire. Et ce transfert de savoir-faire, je pense, est fondamental. Mais si vous avez noté, au fur et à mesure, les structures, qui sont plutôt des structures paraétatiques, ont ouvert leur capital à des sociétés ou à des regroupements de paysans. Il y a eu des privatisations avec un zonage, notamment le zonage, la première qu'on ait vue, c'était en Côte d'Ivoire. Et je pense que ces filières ont encore besoin d'être accompagnées un tout petit peu, même si on doit reconnaître très honnêtement que ce qui s'est passé, notamment en Côte d'Ivoire, a fait sortir des acteurs excellents. Je veux dire, on peut penser par exemple à COIC qui a repris tout un pan lorsque
le COIC, groupe,
c'est une compagnie ivoirienne qui est aujourd'hui un des trois très gros acteurs sur la Côte d'Ivoire. Et COIC fait un travail tout à fait remarquable d'encadrement paysan, de développement. Et je pense que le groupe Agacan, avec Ivoire Coton également, a fait d'énormes efforts et que tous ces efforts ont été couronnés de succès d'un point de vue économique. Moi, je ne parle que d'un point de vue économique et d'un point de vue encadrement. Donc, on peut faire du social, de l'Afrique et avoir des succès qui sont tout à fait probants.
Le Bénin est un pays où la filière aussi a été privatisée. Les entreprises du président Talon contrôlait cette filière depuis un certain temps. Elles ont fait un certain travail. Est-ce que ce travail a payé ? Est-ce que justement la présence du privé a démontré que ça donnait des résultats positifs ?
Sachant, Armand Ezerzer, qu'un audit qui date d'il y a deux jours a mis en lumière certaines failles dans la gestion, avec notamment un problème sur les intrants. Sur les fournitures d'intrants, vous avez vu ça ?
Alors j'ai vu ce rapport, en tout cas quelques résumés du rapport. Je crois que c'est extrêmement compliqué. La situation béninoise a été une situation extrêmement mouvante ces dernières années, où il y a eu, tout le monde le sait, un rapport de force, un espèce de bras de fer entre M. Patrice Talon en tant que détenteur des principales usines d'égrenage, donc producteur de coton à l'export, et l'ancien président, M. Yahi Boni. Tout ça est revenu dans le giron du privé. La Sonapra est en phase de liquidation. Je crois, si je me rappelle bien, hier, il y a eu un rapport de la Cour des comptes en France qui a décrit une situation absolument cataclysmique des comptes publics français. Est-ce que, somme toute, c'est pas de bonne guerre ? Donc, je crois qu'il faut surtout pas rentrer dans ce type de querelle. Aujourd'hui, il y a un président de la République au Bénin qui s'appelle M. Patrice Talon. Il se trouve qu'il a une partie de la filière coton qui aujourd'hui est en train de repartir. On voit que les surfaces emblavées augmentent, on voit que la production a augmenté dernière et est en passe d'augmenter également cette fois-ci.
Au Mali, l'État prend un nouveau chemin et s'ouvre à de nouveaux partenaires, notamment des Turcs et des Chinois. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je pense que c'est inéluctable. Jean-Pierre Boris posait la question tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce que les producteurs africains ne vendaient pas eux-mêmes ? Ben la réponse, la voilà. Il faut que l'Afrique s'ouvre, il faut que l'Afrique prenne des dispositions par rapport à sa richesse et qu'elle puisse gérer elle-même sa richesse. Donc aujourd'hui, les partenariats auxquels vous faites référence sont plutôt de deux ordres. Il y a un partenariat, un espèce de PPP partenariat public-privé, qui est en train de se mettre en place. Et j'espère que ça verra le jour avec l'accompagnement de l'État malien pour que des zones de plantation soient dévolues à un certain nombre d'usines textiles qui viendraient s'installer et produire au Mali. Donc plus la chaîne va être longue, plus elle va être intégrée, plus le Mali pourra tirer de ressources.
Ça, c'est avec les partenaires chinois.
Ça, c'est avec les partenaires chinois. Avec les partenaires turcs, il y a eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu dans le passé. Et aujourd'hui, il y a notamment un grand groupe turc qui achète de très grosses quantités au Mali. Et je crois, pour le plus grand bénéfice, l'État malien qui peut voir en direct que déjà, les prix payés par ce partenaire turc qui produit, lui, en direct son fil, sont sensiblement les mêmes que ceux qu'il obtient auprès du négoce. Donc ce qui tente à prouver que le métier de négociant n'est pas d'acheter moins cher pour revendre plus cher, mais bien d'apporter une liquidité à un marché et de pouvoir se positionner pour très en amont pouvoir vendre ses marchandises.
Alors je reviens au début, aux premières questions que je vous posais. Où est la rémunération ?
La rémunération, c'est déjà...
La vôtre, je veux dire.
Oui, j'entends bien. La rémunération du négociant, c'est un petit peu la tarte à la crème. Tout le monde, on vient et on dit, on n'a pas de rémunération, puisque aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur Internet, n'importe qui peut regarder les cours de bourse, tout le monde sait quelle météo il va faire en Inde, quelle météo il fait aux États-Unis, tout le monde a ces informations. Donc la rémunération, elle va venir que d'un temps long, c'est-à-dire une grande anticipation. Aujourd'hui, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, on traite du Brésil, on traite des États-Unis à de très très longues échéances, et on traite de l'Afrique. Nous, on a déjà fait des contrats pour 2019 à très longue échéance. Plus ce temps va être long, plus on va avoir la capacité à travailler sur des instruments financiers. La rémunération du négociant va d'abord venir d'un travail sur les instruments financiers pour essayer d'optimiser sa position. Et cette position va être travaillée avec un certain nombre d'acheteurs dans différents pays. Mais aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que le négoce de coton, c'est beaucoup un travail sud-sud.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on achète à des pays en voie de développement ou un petit peu plus développé, par exemple dans le cadre du Brésil, et qu'on va vendre à des pays également en voie de développement. Par exemple, si on prend le coton africain, vous avez 26% du coton africain qui est vendu au Bangladesh, et vous en avez à peu près 24% qui est vendu au Vietnam.
Julien Clemenceau.
Un certain nombre de pays, pour être compétitifs, se sont tournés vers les OGM. C'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Brésil. Le Burkina a tenté l'expérience et finalement a renoncé. Quelle est la raison de ce renoncement ?
Alors, d'abord, je suis pas agronome, donc je pose déjà...
Une réponse brève, à moins
sincère. Le postulat de base, c'est que je ne suis pas agronome, mais la qualité qui était issue de ces semences OGM était avec une soie extrêmement courte. Donc on avait un grade magnifique, des caractéristiques techniques magnifiques, et malheureusement, la soie était très courte, ce qui fait que ça destinait ce coton à des produits avec une valeur ajoutée très faible, c'est-à-dire plutôt des denims, des jeans, ou dans du mélange à dose homéopathique, ce qui a dévalorisé grandement la qualité de la récolte burkinabé.
Eh bien, Armand Zerzer, on continue cette conversation dans quelques minutes après un flash d'actualité. Restez à l'écoute, on se retrouve tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique, nous recevons le négociant coton Armand Ezerzer, patron de la société Mambo Commodities. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons très largement évoqué ce qu'était votre activité de négociant, Armand Ezerzer, et comment le coton se comportait sur le marché mondial. Vous nous avez dit que pour les producteurs africains, les prix en ce moment était très élevé, mais il y a une douzaine d'années, vous avez développé une nouvelle activité, la production d'engrais. Vous employez aujourd'hui 700 salariés sur les territoires africains, dans des usines qui produisent de l'engrais. Est-ce que ça veut dire que l'agriculture africaine doit et a besoin de plus d'engrais, doit utiliser plus d'engrais, a besoin de plus d'engrais ?
Alors pour répondre de manière la plus synthétique possible, il faut prendre deux chiffres. L'utilisation d'engrais à l'hectare cultivé est en Afrique en moyenne de 8 kilos. Là, il y a une résolution qui a été prise en 2006 à Abuja, qu'on appelait la résolution d'Abuja, qui prévoit pour 2050 que les engrais, la consommation d'engrais à l'hectare cultivé passe à 50 kilos à l'hectare. Donc, c'est une nécessité. Juste pour mémoire, en Europe, on estime que la consommation d'engrais à l'hectare cultivé est de l'ordre de 250 kilos. Donc, ce qui montre, le chemin encore à parcourir.
Et pourquoi n'arrive-t-on pas mieux à organiser l'utilisation de l'engrais, le recours aux engrais, dans des filières, notamment les filières structurées comme le coton ?
Alors, en matière de filières structurées, l'utilisation des engrais est parfaitement maîtrisée. Là où il y a un accès à l'engrais qui est plus problématique, ça va être dans les campagnes, du fait de la cherté et surtout du décalage. Parce qu'il faut bien se rendre compte que lorsque vous achetez un sac d'engrais aujourd'hui, vous allez pouvoir être remboursé de cet investissement dans 6 à 8 mois, lorsque vous allez commercialiser, que ce soit du vivrier ou de la rente.
Mais donc, néanmoins, vous disiez qu'une partie de l'engrais, vous nous expliquiez ça hors antenne, une partie de l'engrais était utilisée des fois par les cotonculteurs pour d'autres cultures, des cultures vivrières. Donc il y a manifestement quand même un problème dans l'appropriation, l'utilisation des engrais.
Je pense que il faut pas le prendre un tout petit peu moins rationnellement. Les campagnes cotonnières sont constituées de telle sorte que les sociétés cotonnières, qu'elles soient publiques ou privées, avancent les engrais aux cotonculteurs. Donc elles donnent les engrais aux cotonculteurs. Ben, il faut quand même que les cotonculteurs aient une vie à côté du coton, qui est une production de rente. Donc il va y avoir un petit peu des engrais qui sont préconisés pour le coton, qui vont être prises pour aller fertiliser un certain nombre d'autres cultures à côté, parce que il faut que le revenu paysan soit une réalité, et que, je vous rappelle quand même, qu'en septembre, il faut payer la scolarité des enfants. Et ça, c'est toujours le credo.
Armand Ezerzer, vous nous parlez beaucoup des cotonculteurs, vous êtes souvent sur le terrain, je crois. Mm-hmm. C'est une vie très dure, c'est un métier très dur, la culture du coton en Afrique ?
Je crois que la culture du coton dans tous les pays du monde est une culture difficile, c'est une culture extrêmement exigeante. C'est une culture où déjà les cours fluctuent beaucoup, donc le coût humain qu'on va mettre dedans va être un coût qu'il va falloir rémunérer et qui va renchérir cette culture. Oui, la culture du coton est une culture difficile.
On revient aux engrais avec Julien Clémenceau.
L'OCP, l'Office chérifien des phosphates, mène une forte offensive en Afrique subsaharienne pour s'imposer comme un acteur très important dans le domaine des engrais. Est-ce que vous les voyez réussir ? Est-ce qu'ils se donnent les moyens de leur réussite ? Et est-ce que l'arrivée d'un acteur africain dans cet univers des engrais est une bonne chose pour les cotonculteurs, par exemple ?
Alors déjà, je pense qu'il faut juste rappeler que l'OCP, donc l'Office chérifien des phosphates, est un des plus grands groupes de production d'engrais au monde. C'est un énorme groupe qui produit des millions de tonnes tous les ans. Donc c'est un mastodonte qui vient sur un marché qui est en pleine mutation. Et je dois vous avouer que j'ai un tout petit peu de mal personnellement à comprendre exactement où veut aller l'OCP, mais je pense...
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'OCP en Afrique est aussi bien importateur, distributeur, négociant, participe à certains appels d'offres, rentre dans les campagnes, donc il est un petit peu multipacette. Il est protéiforme et couvre une partie quand même très très importante. Donc on a un petit peu de mal avec les autres acteurs de la filière engrais de pouvoir déterminer exactement quelle est la politique que veut suivre l'OCP.
Il y aurait une volonté hégémonique ? Il y aurait la volonté
d'être un peu partout ? C'est ce qui apparaît en tout cas dans ce que vous décrivez, une volonté hégémonique, une volonté de prendre le pouvoir.
Alors, j'espère pas, parce que de toute manière, il faut savoir que, à l'origine, le marché des engrais en Afrique était dominé par trois sociétés étatiques. À l'époque, c'était SCPA Sivex, donc l'État français, Yara, l'État norvégien, et Senchim, l'État sénégalais, qui avaient en quelque sorte mis en coupe réglée le marché des engrais. Aujourd'hui, cette hégémonie triface a disparu. Puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs africains qui se sont imposés sur les différents marchés, et que ça a provoqué une guerre des prix, ça a provoqué une guerre des installations. Donc il y a de plus en plus d'installations, et il y a de plus d'installations gérées, conduites par des Africains. Le problème que posent les engrais, à mes yeux, aujourd'hui, c'est que personne ne veut prendre la décision finale, à savoir qu'il y a des producteurs africains, dans lesquels je me range, où on produit en Afrique tous les engrais complexes pour avoir un panel de distribution le plus large possible pour toutes les cultures envisagées, toutes les spéculations, comme on dit en Afrique, et qu'aujourd'hui, face à ça, il y a des producteurs qui investissent souvent de l'argent, des fonds propres, qui paient des impôts qui sont de plus en plus lourds en Afrique, qui paye les droits de douane, et face à ça, on se retrouve confronté à des importateurs avec un visage un peu hybride, et face auquel il est très difficile de se positionner. Donc, on connaît la puissance de l'OCP, mais il faut que l'OCP reste toujours aussi puissant, et je pense pas que l'OCP veuille faire de la distribution en France, en Allemagne, ou en Espagne, ou même au Brésil, mais qui sont des importateurs.
Ben vous voyez bien Armand Ezerzer qui est une offensive diplomatique et économique du royaume marocain, du royaume chérifien en Afrique subsaharienne.
Mais
visiblement, c'en est une traduction.
Si vous voulez que l'OCP et le Maroc soient le fer de lance d'une politique, c'est vrai, c'est une réalité, et je pense que c'est un bien. C'est pas ça. C'est juste le côté protéiforme de l'action de l'OCP. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple. Il y a un intervenant malien, qui est un des très grands distributeurs d'engrais en Afrique, qui a investi en Guinée-Conakry, qui a mis des installations, qui a investi son argent, et l'OCP, dans une offensive diplomatique vis-à-vis du nouveau président de l'Union africaine, a fait un don. Mais ce don ruine à la Guinée-Conakry. Donc ce don va ruiner tous les efforts d'un partenaire privé. Donc je pense que c'est un petit peu comme Google, même si on vous dit que c'est gratuit, rien n'est vraiment gratuit. Donc ce qui serait peut-être bien, c'est que, et d'ailleurs je me réjouis parce que l'OCP rentre à l'intérieur de WAFA. WAFA, c'est la nouvelle organisation des intervenants en engrais en Afrique subsaharienne qui est en train de se mettre en place. Et l'OCP demande à y participer et devrait être coopté très rapidement. Peut-être qu'autour de la table, avec des importateurs, des mélangeurs comme nous, et des distributeurs, peut-être qu'on arrivera à redéterminer quel est exactement le spectre que doit avoir l'OCP, mais il est bien évident qu'un groupe d'une telle puissance, je pense que c'est un bienfait pour l'Afrique, et je pense qu'on a tous besoin que l'OCP mais soit à sa juste place.
Armand Ezerzer, le directeur général de la Banque africaine de développement, constatait il y a quelques jours qu'en ce moment, c'est là le monde qui nourrissait l'Afrique, mais que l'Afrique avait pour mission de nourrir le monde et qu'elle le ferait bientôt, un jour. Vous y croyez ? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit ?
Moi, je trouve que c'est une vision extrêmement réductrice. Je pense que l'Afrique est la courroie de croissance dont le monde a besoin. On nous dit que l'Afrique va avoir une population qui va doubler dans les 20 ans qui viennent. Il faut en prendre acte. Je pense qu'il faut juste qu'aujourd'hui, on arrête justement de venir avec un système d'ONG, d'assistanat, pour avancer et qu'on vienne sur un vrai échange, un vrai transfert de technologie. Et je pense que la première chose qu'il y aurait à faire, c'est d'investir en Afrique. Moi, j'enjoins tous les auditeurs à venir, à découvrir l'Afrique et à voir que l'Afrique a besoin de tous les investisseurs et que en Afrique, il y a des savoir-faire, il y a des compétences et c'est un marché qui est en plein boom. Les taux de croissance qu'on voit dans une partie de l'Afrique, qui malheureusement n'a pas de pétrole, puisque c'est surtout les pays qui ont trouvé le pétrole qui ont un petit peu de soucis aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie croissance, que c'est une courroie pour nous, Européens, avec une chance de pouvoir avoir à nos côtés des voisins extrêmement puissants.
Vous le disiez, là, en ce moment, les cours du pétrole sont bas. Pendant plus d'une dizaine d'années, l'Afrique a été portée par des matières premières dont les cours étaient très hauts. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la baisse des matières premières, donc il y a le pétrole, il y a aussi les minerais, l'Afrique s'en porte beaucoup plus mal ? Est-ce que vous voyez une différence ? Et est-ce que pour vous, c'est une catastrophe ?
On voit certains pays souffrir vraiment de la baisse des cours, notamment du pétrole. On voit le Nigeria, et qui inquiète tout le monde. On voit le Tchad. Et ça inquiète tout le monde parce que ce sont des pays où il y a une instabilité, notamment avec Boko Haram, qui inquiète le monde entier. Et par rapport à ça, peut-être que c'est l'aspect monoproduit sur lequel il faut revenir. Il n'y aura pas une panacée au développement africain sur un produit. Je me rappelle que la Côte d'Ivoire a tablé pendant longtemps que sur le cacao. Aujourd'hui, on est passé sur l'huile de palme, on est passé sur la noix de cajou, puisque la Côte d'Ivoire est non seulement premier producteur mondial de cacao, mais également premier producteur mondial aujourd'hui de noix de cajou. Et je pense que avec ce que fait le président Ouattara, c'est-à-dire pousser à une transformation sur place, sur le modèle qu'il cite régulièrement, c'est-à-dire c'est moi, le chocolatier c'est moi, qui produit de plus en plus localement, bah, l'avenir de l'Afrique il est là. Et c'est surtout pas sur le monoproduit, c'est sur pas monorécolte, monoproduit, tout ça, ça mène nulle part. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est diverse et elle doit avoir diverses production et surtout des productions industrielles.
Alors, Armand Ezerzer, nous interrogeons souvent à ce micro des universitaires, des chercheurs qui ont un avis très tranché, favorable selon les uns ou plus critique selon les autres vis-à-vis du franc CFA. Des politiques aussi s'expriment. Dans l'émission internationale diffusée la semaine dernière sur les antennes de RFI, le président tchadien Idriss Déby disait une nouvelle fois les critiques qu'il adresse de manière récurrente à cette monnaie ouest et centrafricaine.
Le seul intérêt qu'il y a, c'est-à-dire que franc CFA, 14 pays, c'est très bon, qui ont une monnaie commune. C'est une chance. Il ne faudra pas qu'il y ait un départ disparate par pays. Bon. Il faut que les pays, les 14, regroupés, et renégocier la monnaie franc CFA pour que cette monnaie réellement devienne une monnaie de ces pays-là. Mais que le trésor ne nous gère pas. Le trésor français ne gère pas notre monnaie. En tant que pays souverain, nous gérions notre monnaie par nous-mêmes, par notre banque centrale. Nous avons aujourd'hui, au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale, il y a trois Français qui siègent avec nous et qui ont le droit de, comment on appelle, béton. Comment voulez-vous que l'Afrique se construise dans cette situation, l'Afrique francophone? Et d'ailleurs, moi je vais vous dire une chose. Nos collègues chefs d'État de l'Afrique anglophone, isophone, arabophone, ils nous disent que si nous avons aujourd'hui des malheurs, nous connaissons des malheurs, c'est à cause de vous francophones.
C'était donc le président Idriss Déby. Vous écoutez Codicier Co d'ailleurs dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Nous interrogeons Armand Ezerzer, négociant patron de la société Mambo Commodities. Alors Armand Ezerzer, vous, le franc CFA, vous l'utilisez au quotidien pour le fonctionnement de votre entreprise. Est-ce que c'est une monnaie qui satisfait les exigences de votre commerce ?
La première chose, quand j'ai commencé dans ce métier, en 1995, lorsque la dévaluation a eu lieu, du jour au lendemain, on nous a appelés les dévaluateurs. Les Français étaient devenus les dévaluateurs. Et je pense que depuis à peu près 22 ans, nous sommes toujours les dévaluateurs. Donc on voit absolument partout fleurir un certain nombre de critiques à l'endroit de la France, du trésor et de la mainmise sur la monnaie africaine. Contrairement au président Idriss Déby, moi je ne suis qu'un opérateur économique. Donc je ne vais pas avoir la vision et la distance par rapport à un certain nombre de choses. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'à mes yeux, aujourd'hui, le franc CFA, il faudrait d'abord le renommer.
Et l'appeler comment ?
Il faut l'appeler par un autre nom. Parce qu'il ne correspond plus au nom qu'on les avait donné à une certaine époque. Ça, c'est la première chose. Il faut, bien évidemment, qu'on prenne ce franc qu'on appelle encore CFA, il faut qu'on le prenne pour ce qu'il est, c'est-à-dire une chance. La stabilité que procure le franc CFA avec l'aval du Trésor français est une chance. Peut-être une chance que certains considèrent comme un carcan aujourd'hui, mais c'est une chance. Pour un opérateur économique, il faut bien savoir que cette stabilité permet des investissements. Cette stabilité permet des investissements sur un temps long et elle permet de recréer un système bancaire. Aujourd'hui, le système bancaire africain est en train de se recréer. Il est en train de se mettre aux normes internationales avec Bâle 2, on parle même de Bâle 3 très prochainement. Et que par rapport à ça, il faut juste qu'on se souvienne que si on veut avoir la main mise sur ses capacités financières, sur sa monnaie, il y a un certain nombre de choses qui s'y implique. Ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on traite en franc CFA, pour l'investisseur, l'investisseur ou le producteur, quel que soit son rôle, lorsqu'il cherche des devises à l'étranger qui va venir les convertir contre des devises fortes, qu'on va dire du dollar ou de l'euro principalement, ça coûte horriblement cher. Et ça, c'est pas le Trésor français. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Il y a déjà une taxe à la BEAD qui coûte 0,60%
de la BEAD. La Banque Ouest-Africaine.
Ouest-Africaine de développement. Il faut s'en affranchir. Ça coûte 0,60%. Et que l'organisme financier à qui vous allez demander ces devises fortes aille sur le marché pour les acheter. Donc vous allez devoir les acheter. Ça peut vous coûter 1,5%, 2%, voire 3%. Donc ça va renchérir d'autant la valeur du franc CFA. Donc,
la valeur ou le coût ?
Le coût du franc CFA. Et donc, ça veut dire que lorsque vous investissez, vous avez du mal à importer, ça va vous coûter extrêmement cher. Les banques africaines coûtent extrêmement cher également, puisque vous avez des taux d'intérêt qui sont pratiqués, qui sont 3 à 4 fois supérieurs pour les grandes entreprises au cours à l'interbancaire traditionnel. Aujourd'hui, on va être autour de 7% hors taxes pour les très grosses sociétés, et pour les sociétés un petit peu moins grosses, on va être entre 10 et 11%, et là-dessus, il y a une cascade de frais qui viennent se greffer dessus. Donc, je pense qu'il faut prendre les problèmes les uns derrière les autres. Je ne suis pas un homme politique, mais on peut dire qu'aujourd'hui, le franc CFA est une chance, pour autant que ce soit qu'un passage, que ce soit qu'une transition, et que les États africains appuient sur cet aspect-là et permettre aux structures financières en place de pouvoir les accompagner. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure du président de la BAD qui a fait énormément et qui est l'ancien ministre de l'agriculture du Nigeria, si je ne me trompe pas.
Akinwumi Adesina, oui.
Et je pense qu'il a également un rôle pour accompagner un certain nombre d'efforts qui sont faits en ce moment. Et juste pour conclure, on a parlé du Maroc tout à l'heure. Les banques marocaines sont devenues extrêmement présentes sur le marché en Afrique. Les banques françaises reviennent, notamment avec les BCC, c'est-à-dire la BNP et la Société Générale. On parle des banques populaires, BRED, qui veulent également venir sur ces marchés. Et je pense que c'est un bien parce que ça va être un relais de croissance. Aujourd'hui, les organismes tels que Proparco sont les concurrents de ces banques-là. Aujourd'hui, c'est nous, quand on veut emprunter, on n'arrive pas à emprunter à des gens qui sont là pour le développement, tout simplement parce qu'elles ont des fonctions de banque commerciale et que par rapport à ça, l'aide pour pouvoir pérenniser cet ensemble et se rattacher au franc CFA manque cruellement aujourd'hui.
Armand Ezerzer, vous nous avez beaucoup parlé des politiques depuis quelques minutes. Est-ce que l'homme d'affaires que vous êtes a des contacts en Afrique avec ces milieux politiques ? Est-ce qu'il est obligé de passer par les politiques ? Est-ce que le discours que vous nous tenez, appelant réforme, etc., vous le leur tenez également ?
Alors écoutez, je vais vous avouer quelque chose, je n'ai jamais rencontré un homme politique français, qui est mon pays, et pour lequel je vote. Donc je trouve absolument déplacé d'avoir à aller rencontrer des hommes politiques dans des pays où je n'ai aucune légitimité politique. Donc en règle générale, je ne rencontre pas d'hommes politiques parce que ce n'est pas ma vocation.
De gouvernants
ni d'hommes politiques parce que ce n'est pas ma vocation.
Et eux ne cherchent pas à vous rencontrer ?
Oh, je suis trop petit, je ne représente pas grand-chose.
Julien Clémenceau.
Vous employez environ 700 personnes dans vos usines d'engrais en Afrique. Est-ce qu'il arrive que certains d'entre eux, malgré tout, soient tentés par l'émigration ? Est-ce que vous entendez parler de cette problématique dans vos effectifs ?
Écoutez, en 12 ans, je n'ai eu qu'un seul cas. Et c'est quelqu'un qui un jour est venu me voir en me disant « Monsieur Armand, je vais aller tenter ma chance ». Alors, j'ai pas compris. Il me dit « Je vais aller tenter ma chance aux États-Unis ». Et il est parti aux États-Unis. Alors, à l'époque, ça m'avait beaucoup choqué, parce que je m'étais dit « Pourtant, on dit que c'est en Europe, que ça se passe, etc. » Ils disent « Non, c'est plus pour nous, l'Europe ».
Et donc l'industrialisation, le fait d'avoir des usines, d'avoir de la valeur ajoutée sur le continent africain, c'est ça la solution à l'émigration ?
Alors moi j'en suis convaincu, j'ai les mêmes équipes, dont je suis très fier, depuis 12 ans. Et partout où on s'installe, on prend bien garde de maintenir un emploi à tous les locaux. Donc il n'y a pas d'expatriés dans aucune de nos usines et on essaye de faire un transfert de savoir-faire absolument sur toutes les usines et c'est ce qu'on veut continuer à faire.
Et la stratégie des pays européens, de la France, qui parle de co-développement pour fixer notamment les populations aussi, pour se prémunir des flux migratoires, est-ce que vous voyez ça comme une bonne solution, comme quelque chose de positif ?
Moi je vois un investissement privé comme une bonne solution. Alors tout dépend si vous recouvrez dans votre acception le privé et le public. Moi, je suis un fervent défenseur du privé parce que l'Afrique a besoin de s'industrialiser, a besoin de faire énormément de choses. Et qu'il y ait des partenariats publics qui soient mis en place, je pense que c'est une très bonne chose pour autant que le privé devienne à terme majoritaire. Et là-dessus, je vous renvoie à ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie, qui est assez symptomatique. Et je pense à terme sera une grande réussite.
Armand Ezerzer, il y a le privé étranger que vous êtes, et puis il y a les privés nationaux, locaux, les capitalistes africains. La semaine dernière, dans cette émission, l'économiste Chérif Salif Sy mettait en cause ces élites économiques africaines qui, selon lui, n'investissent pas assez dans leur propre pays. Écoutez ce qu'il disait.
La question de fond pour l'Afrique, c'est la mobilisation de son apport propre. Il faut que l'Afrique cesse de s'adosser de cette façon au reste du monde. Et dans aucun gouvernement africain, vous avez une stratégie de mobilisation des ressources internes. Et lorsqu'il y a des fêtes à longueur d'année, on voit les énormes quantités d'argent mobilisées par les populations et qui ne vont pas dans le secteur productif. Il faut que les gouvernements jouent leur rôle de sensibilisation en montrant que c'est le développement sur les infrastructures de développement, écoles, santé, hôpitaux, c'est ça qui fait le développement. L'Afrique est capable, les Africains sont capables de mobiliser des ressources, mais cela ne se fait pas à cause du leadership qui est défaillant, que ce soit le secteur privé, que ce soit l'État, que ce soit la chefferie traditionnelle. Globalement, les leaderships en Afrique sont défaillants sur cette question de mobilisation des ressources.
C'était donc Chérif Salif Sy, la semaine dernière, dans Éco-Dici-Éco. D'ailleurs, Armand Ezerzer, vous en pensez quoi ?
Je suis d'accord sur le constat qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement. D'investissement africain, mais je crois que ce que cherchent d'abord les personnes qui ont la capacité d'investir, c'est qu'on leur montre la voie. Aujourd'hui, on voit par exemple ce qui est en train de se passer dans le secteur du ciment. Aujourd'hui, le ciment est traité en Afrique. Il y a des millions de tonnes de ciment qui arrivent maintenant tous les ans. Il y a des investissements qui sont faits à peu près dans tous les pays autour du ciment pour pouvoir accompagner la construction. Je pense que l'Afrique, là, a besoin de gens qui lui disent « on va investir là ». Et vous voyez, je voudrais juste faire remarquer quelque chose. Tout le monde critique un peu ce qui se passe en Afrique et pourquoi les dirigeants africains. On entend ça à longueur de journée. Mais moi, j'aimerais juste rappeler que l'Afrique est en train de courir après le modernisme occidental. Et en le faisant courir, aujourd'hui, je reprends l'exemple que prend régulièrement M. Zinsou, qui est l'ancien premier ministre béninois et qui aujourd'hui est devenu président de Terra Nova, qui dit toujours...
Un think tank plutôt de gauche, dirons-nous.
Il dit « Ah, mais en Afrique, c'est formidable, on a sauté, on est maintenant au téléphone portable. » Mais le fait qu'on n'ait pas de téléphone filaire fait que quand vous investissez en Afrique, vous n'avez pas de réseau Internet et c'est un problème énorme. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique, pour être au goût du jour, va devoir mettre de la fibre. Et donc l'Afrique est constamment en train de courir après les nouveautés. Le monde va tellement vite que je crois que c'est ça le véritable problème africain. Le monde va très vite et on demande à l'Afrique d'aller aussi vite que le monde. Et puis on oublie que le téléphone filaire, eh bien en France encore, la plupart des téléphones fonctionnent avec ça et que la DSL passe par là. Et que le fil de cuivre, quand même, il va falloir en passer par là. Et que la fibre, l'Afrique, elle n'a peut-être pas encore tout de suite le temps de l'installer. Donc voilà, cette espèce de course après le temps, je pense, est extrêmement nuisible au développement africain. Et qu'aujourd'hui, si les gens viennent et investissent, Il y a tellement de fonds qui sont en déshérence aujourd'hui. On voit ces fonds d'investissement qui croulent sous l'argent, qui ne savent pas quoi en faire. Ben, il y a des pays où il y a 6% de croissance, où il y a des pays où il y a 9% de croissance, où il y a tout à faire. Un pays comme le Burkina Faso, ça fait 20 jours, 20 ans que je prends la même route et que rien n'a changé sur cette route, si ce n'est les entreprises qui la rafistolent, notamment payées par la communauté européenne. Et ben ça, tout ça, ça change tout. Et je pense que c'est ça dont l'Afrique a besoin. Et pas de stigmatiser ses élites, pas de stigmatiser ses forces vives. Forces vives, elles ont besoin de savoir où est-ce qu'elles vont devoir investir, et je pense que c'est aussi à ces fonds d'investissement de venir avec elles.
Pendant longtemps, l'Afrique, c'était surtout le royaume des ONG. Les ONG ont beaucoup travaillé dans ces pays-là. Est-ce que vous avez vu des résultats, vous qui êtes sur le terrain régulièrement et depuis longtemps? Qu'est-ce que vous pensez de ces acteurs dont on a dit qu'ils étaient des acteurs du développement?
Alors, je pense absolument pas que les ONG soient un acteur du développement. C'est plein de bonnes intentions, mais il ne faut pas confondre morale et développement. Et la meilleure des ONG, ça va être celui qui va aller créer une entreprise, avoir besoin de main-d'œuvre. Ça, c'est la meilleure des ONG. Je pense qu'il faut arrêter de demander à apprendre à tendre la CBI. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse travailler. Point.
Point final.
Final.
Armand Ezerzer, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous, Armand Ezerzer, d'avoir accepté notre invitation. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde ce grand invité de l'économie. Dernier écho d'ici, écho d'ailleurs de la saison. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez réécouter 8 émissions diffusées depuis le mois de septembre dernier qui seront donc rediffusées. Nous reprenons notre cours normal le 1er septembre prochain. En attendant, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.